Bonjour, chers auditeurs du balado Soirée Peinture. Chose promise, chose due, vous avez dans les oreilles en ce moment la section David vous éduque du balado qu'on vous livre dans un épisode bonus parce qu'on souhaite bien sûr garder la longueur des épisodes sensiblement le même et qu'on avait pas mal dépassé dans notre discussion très intéressante avec Jean-Virgile. Donc, la section de David est un peu en retard, mais on espère que vous allez bien en profiter et que vous nous retrouverez dimanche prochain pour notre prochain épisode. En vous souhaitant une bonne journée et une excellente soirée peinture.
David nous éduque.
David, éduque-nous.
D'accord. Alors, la fin de semaine dernière, étant donné qu'on avait 3 jours de fin de semaine, j'en ai profité pour aller voir ma mère dans le Pontiac. Et à chaque fois que je vais là, en tout cas du moins quand je vais l'été ou le printemps, voire même l'automne, les paysages me fascinent. C'est superbe de voir l'Outaouais, de voir les montagnes autour, toute la région du Pontiac, c'est superbe. Et à chaque fois, ça me ramène au conflit qu'il y a eu en Amérique du Nord, puis je me dis, il y a des belles tables à faire avec ça, avec des arbres, avec des collines, avec des rivières, des débarquements de canaux, ce genre de trucs-là. Je me suis dit, de quoi je pourrais vous parler pour comme surfer sur cette inspiration-là? Puis là, j'ai pensé à la bataille de la Monongahela. Fait qu'aujourd'hui, la bataille de la Monongahela et l'expédition Braddock. Puis là, tout de suite, je le dis, là, s'il y a des gens qui connaissent beaucoup plus le sujet que moi, c'est très possible. J'ai fait ma recherche, mais ça se peut que... Tu sais, déjà dans ma recherche, il y a des chiffres qui ne cadraient pas. Ce n'était pas les mêmes chiffres au même endroit. Là. Fait que n'hésitez pas, en dessous de l'épisode, commentez, corrigez-moi, dites-nous c'est quoi la vraie affaire. Ça va me faire plaisir de vous lire.
Ou sinon, laissez-le vivre dans le fait qu'il a fait ses recherches, puis c'est correct. Là.
Ah, aussi. Donc, je vous pitch rapidement le truc. Garde la conquête, juste avant qu'elle commence, en 1755, débarque le général Edward Braddock, qui devient le commandant-chef des armées britanniques en Amérique du Nord. Il décide de mettre au point une expédition pour aller prendre Fort Duquesne, qui est aujourd'hui Pittsburgh. Là, comme j'ai dit, la guerre n'a pas encore commencé. Fait qu'en Amérique du Nord, il y a des escarmouches, ils s'attaquent, ils se tapent dessus, même si en théorie, la France et l'Angleterre ne sont pas encore en guerre. Donc, il décide d'aller prendre Fort Duquesne parce que c'est un peu une position stratégique pour contrôler la vallée de l'Ohio, puis c'était un des objectifs principaux de sa campagne, mais des Britanniques versus les Français, de contrôler cette vallée-là avec beaucoup de terre fertile. Donc, il part, puis ça, c'est un voyage de 200 km à pied dans le bois. Pis même si dans le bois, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, 200 km à pied dans le bois, à l'époque, c'est long.
Est-ce que ça a eu ça?
Pardon?
Est-ce que ça use?
Ça use, je pense, oui. Parce qu'il part le 29 mai.
200 km à pied, on pourrait dire que ça use tes souliers, mettons. Là. Ça
a use, ça use. Père.
Je suis un peu trop fier de ce jeu de mots-là avec une toune pour enfants.
Mais
je vis tout le bonheur.
Tu veux-tu savoir à quel point ça use tes souliers?
Vas-y donc.
Ils partent le 29 mai. Ils se rendent pas loin pour la bataille le 9 juillet. On parle de 3 km par jour environ. Là, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont visuels ou qui ça leur prend des points de repère. Par exemple, Berry-UQAM au Parc Olympique, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà marché, c'est 5,3 km, donc c'est plus que ce qu'eux, ils font une journée, puis ça prend 1h08.
Ouais.
Puis pour nos auditeurs et auditrices qui seraient en Europe, Notre-Dame de Paris à la Tour Eiffel, c'est 4,8 km, ça prend 59 minutes. Fait que là, 200 km en à peu près 2 mois, là. Peut-être un peu moins de 2 mois.
Puis t'espères pas tomber ses vacances de la construction, hein, parce que pour c'est vrai, les fonds d'orange, il y en a ben trop.
Il y a du trafic sur ta trail dans le bois. Fait que lui, il part avec environ 2100 personnes. Là-dessus, 2 régiments d'infanterie de ligne, là, ça c'est l'armée régulière avec 1350 personnes, 500 soldats réguliers des compagnies et miliciens, donc c'est un mélange. Et puis 10 canons. Et du soutien de troupes. Fait qu'il y a des carrioles avec les vivres, avec les cantinières, les femmes des soldats, ce genre de trucs-là. L'important, c'est les 10 canons parce que c'est ça qui permet de prendre la forteresse. À l'autre bout, les Français, c'est là que mes chiffres n'étaient pas clairs. J'avais soit 108 ou 216 soldats, 146 miliciens, 637 autochtones alliés. Fait qu'il y a 891 Français contre environ 2100 Britanniques.
Quand même.
C'est, oui, a priori, c'est perdu d'avance. Puis c'est ça que Jean-Daniel Dumas et Daniel Liénard de Beaujeu se rendent compte. Ils se disent, si les canons se rendent là, ils vont défoncer nos murs. Parce que c'est une belle forteresse, c'est une des plus belles forteresses. Bon, il y a Louisbourg qui est vraiment plus gros, là, mais du système de défense français en Amérique du Nord. Mais les murs, en partie, sont en bois. Fait qu'avec l'artillerie, peut-être défoncer ça assez rapidement. Après ça, c'est le jeu du nombre. Là. Si tu as plus de soldats que l'autre, c'est facile de prendre d'assaut et de juste l'enterrer sous le nombre. Fait qu'ils se disent, on va tendre une embuscade.
Puis ce mais là, fonctionne... Dumas, là, on l'a-tu reçu sur le podcast à un moment donné, lui?
Non, je pense pas.
OK, parce que ça me disait quelque chose. Je le sais, tu vois. Je te laisse continuer.
Fait qu'eux, ils décident de faire une embuscade. Puis ce qui marche bien pour eux, c'est que comme ils ont des alliés autochtones, ils envoient des éclaireurs. Fait qu'ils sont au courant. Puis on parlait d'envoyer des éclaireurs, faire de la reconnaissance dans un autre épisode. Ben eux, ils s'en servent très bien. Fait qu'ils savent où les Britanniques sont rendus. Ils harcèlent les troupes. Ils font pas vraiment beaucoup de dégâts. Mais tu sais, ils débarquent, là, ils tirent sur le camp. Ils font des petites attaques éclairs. Mais ça leur donne une idée d'où ils sont. Fait qu'ils se disent, on va sortir du fort. Puis on va les attaquer au moment où ils vont traverser la rivière. Puis là, j'ai trouvé une super belle carte sur gallica.fr. Gallica, c'est les archives nationales françaises. Je vous l'ai mis pour vous sur le podcast dans le salon textuel général. Si vous cliquez dessus, là, tu cliques sur Open Original. Là, ça va s'ouvrir dans ton furteur. Puis dans ton furteur, tu peux voir la grosseur de la carte. Là. Fait que tu as le fort qui est en haut. Puis tout en bas, en fait, tu vois la colonne britannique qui est en jaune et rouge, puis les Français qui les attendent au bout. Là. Mais ça vous donne une idée du terrain. Fait que le but, c'était de les attaquer au moment où ils traversaient la rivière. Pouf! Les Français sont en retard, ratent leur coup. Fait que pendant qu'ils marchent sur le même chemin, la même trail, ils tombent face à face avec l'avant-garde britannique. Et là, les Français restent. Ils se disent, bon, ben c'est raté, on a raté notre coup, mais ils quand même décident de se battre. Font leur affaire, puis ils réagissent tellement bien que les Britanniques pensent qu'ils sont tombés dans une embuscade. Fait que la vraie embuscade est un échec, mais le fait qu'ils aient juste comme gardé leur composition devant les Britanniques qu'ils ont rencontrés complètement par hasard donne l'impression aux Britanniques qu'ils tombent en embuscade, puis ça les fait paniquer.
C'est là que les Anglais ont créé l'expression « fake it until you make it
». Peut-être, oui.
Je suis sûr. Je n'ai pas fait mes recherches, mais je suis sûr.
Puis là, c'est drôle parce que Daniel Liénard de Beaujeu, qui est le commandant, meurt tout de suite dans le début de la bataille. Puis généralement, quand ton commandant meurt, ton armée commence à vaciller un peu. Là, non, il continue le rescarmouche. L'avant-garde finit par se replier, l'avant-garde britannique, parce que là, ils se disent, OK, dans l'embuscade, il faut qu'on se pousse. En retournant sur la trail, c'est une petite trail, ils tombent vis-à-vis le reste de l'armée britannique qui venait les aider. Et là, comme c'est des gens qui sont habitués de marcher en rang pour la plupart, tout ça, ça crée une confusion. Les Français et les Autochtones en profitent, continuent à leur tirer dedans. Ils ont beaucoup de difficultés à se remettre en place. Par contre, les miliciens américains qui sont avec eux vont dans les bois et adoptent la même tactique que les Français et les Américains, soit la petite guerre. Tu te caches derrière un arbre, tu tires, on est vraiment plus dans l'escarmouche que dans la bataille rangée. Puis ils commencent à faire une différence, sauf que les troupes régulières qui sont sur le chemin, qui ont de la misère à se remettre en place, sont plus capables de distinguer c'est qui les Autochtones, c'est qui les Français, puis c'est qui les miliciens américains, fait qu'ils se mettent à tirer sur leurs miliciens à eux.
Oh!
Ah oui, c'est la débandade. Le général Braddock est tué, donc le commandant-chef britannique, pouf, capoute. Et c'est vraiment grâce à un aide de camp qui n'était pas rémunéré, mais qui a gardé sa composition et qui s'occupait un peu de l'arrière-garde, mais dans les faits, il n'y avait pas officiellement de titre d'officier, donc il ne pouvait pas officiellement donner les ordres. Ce gars-là garde sa composition, réussit à rallier l'arrière-garde qui permet pardon, à l'armée principale et à l'avant-garde de se replier puis d'éviter le désastre total. Cette aide de camp-là s'appelle George Washington, qui va devenir un grand héros de la guerre d'indépendance américaine et un futur président. Mais c'est grâce à lui que le désastre complet est arrêté et ils réussissent à s'en aller. Mais comme ils sont poursuivis par les Français et les Amérindiens, ils brûlent leurs chariots avec leurs vivres, abandonnent, détruisent leurs canons pour les abandonner parce qu'ils veulent juste se pousser au plus vite. Résultat, 456 soldats britanniques tués, 421 blessés. Les officiers ont été vraiment ciblés. 86 pardon, 86 tués, je pense 63 blessés, quelque chose comme ça. Sur les 50 femmes qui accompagnaient la colonne, là, ils disent pas comment ça s'est passé, mais il y en a seulement 4 qui survivent. Côté français, 8 morts, 4 blessés. Côté autochtone, 15 morts, 12 blessés. Alors que les Anglais étaient à peu près à 2 contre 1. Et que c'est vraiment un bel exemple, cette bataille-là, de un, de des fois tu prévois un plan, ça tombe à l'eau, mais tu peux revirer une situation. Puis, c'est pas parce que tu as l'armée la plus forte ou la mieux entraînée que ça peut marcher. Même qu'il y a des théories qui disent que le général Braddock est un général britannique qui arrivait du continent européen, qui était habitué aux batailles rangées, puis c'est sûrement ça qui lui a nui parce qu'il n'était pas capable de concevoir pardon, la guerre des Scaramouches, la petite guerre. Mais des fois, c'est ça, une plus petite armée, pas nécessairement mieux entraînée, pas nécessairement plus élite, mais qui est plus adaptée, connaît mieux son terrain, a fait sa reconnaissance, puis s'adapte à la guerre qu'il doit mener, peut gagner une bataille comme ça.
Fait que là, moi, je retiens deux choses de ce que tu dis. Parce que là, moi, je sais qu'à chaque fois que c'est le moment où c'est David nous éduque, je donne l'impression que j'écoute pas, OK? Puis ouais. Je comprends que c'est une forte impression, puis peut-être qu'elle est vraie, mais... mais... Des fois, j'écoute, OK? Puis là, ça me rappelle deux affaires. Premièrement, une belle leçon là-dedans, ça veut dire, encourager vos bénévoles, hein? Parce que pour vrai, pas de bénévoles, pas de George Washington, pas de George Washington, pas de guerre d'indépendance, pas de guerre d'indépendance, pas de bénévoles dans vos événements. Fait que, encouragez vos bénévoles. Deuxième affaire. V'là plusieurs podcasts. Je me rappelle très bien que tu as fait un segment David nous éduque où est-ce que tu parlais qu'il y avait des batailles rangées, fait qu'il y avait, mettons, des David, qui étaient ceux qui respectaient les ordres de batailles rangées puis qui se battaient très bien puis qui étaient très organisés puis qui étaient efficaces. Puis il y avait les Kevin. Hein? On les avait surnommés les Kevin. Tu sais, ceux qui se bataillent pas en rangée, tu sais, puis qui font leurs affaires, mais qui s'adaptent à ce qui se passe, tu sais. Puis là, moi, ce que je retiens, c'est que les Kevin ont gagné cette bataille-là, dans le fond.
Oui, t'as bien compris.
Fait, morale de cette histoire, encouragez vos bénévoles et encouragez vos Kevin, bâtard. Et respectez-nous. Bon, mais, c'était mon éditorial.
Mais les Kevin, ils perdent sur les prennes d'Abraham après. Fait que...
Eh ben, merci, David, de nous avoir éduqués aujourd'hui avec tout ça. Tu m'as comme donné raison deux fois plus. Moi, j'aime ça. Ouais. C'est un bel épisode aujourd'hui.
Ben, merci. Puis ouais. Moi, j'aimerais finir avec.
Une invitation pour Abraham.
Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, je vous invite toujours à regarder des batailles comme ça historiques pour vous inspirer vos bras de bataille. Puis, ce genre de la bataille de la Monongahela, ça peut être une super belle inspiration pour les résidus. Vous allez me dire que c'est quoi le rapport entre les guerres du 18e siècle dans le bois puis les résidus. Imagine qu'au lieu de ton bois, c'est un petit sentier qui se passe pendant... la prise du... tu vois, j'ai oublié le nom, mais la prise du palais intérieur, là, ce qu'on voit dans Echoes of Eternity. Ton petit sentier, ouais. Là, c'est le seul passage que tu as dans tes ruines. Ta vision est limitée parce que, comme ils disent, il y a de la poussière partout. Fait que ouais. Là, t'as ta colonne de traîtres qui s'avance vers le milieu pour aller comme chercher les dernières forces loyalistes. Les loyalistes, ils s'organisent avec leur jetpack pour être par-dessus les ruines et les attaquer de tous côtés.
Mais c'est vrai que ça fit. Pour ceux qui n'ont pas lu Echoes of Eternity, là, pour vrai, aller lire ça, c'est pas un spoiler, là, mais ce que David décrit, c'est effectivement quelque chose de très similaire à ce qui se passe dans le livre. Fait que c'est une façon vraiment simple de pouvoir représenter une bataille thématique du roman avec des règles historiques. Puis peut-être que tu peux nommer un de tes Space Marine Abraham, mais bon. C'est...
ou, comment il s'appelait? Jean-Daniel Dumas ou Daniel Liénard de Beaujeu. Thank you.